invite à lire avec moi le chapitre 20 de l'Évangile de Jean, des versets 1 à 18, et dans les Bibles bleues devant vous, le texte se trouve à la page 1219. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où il est. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées sur terre, par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre, les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'étaient pas avec les bandes, mais enroulés dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui est arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où il est. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ?» Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore montée vers mon Père. » Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela.
Mercredi, les médias ont retransmis les obsèques du lieutenant-colonel Arnaud Beltram, et le sacrifice consenti par cet homme a animé toute la nation, en prenant la place de la dernière personne otage, et il a accepté de perdre sa vie pour sauver la sienne. Il est décédé suite au coup qui n'a été infligé. Et lors de cette cérémonie, on a pu voir les larmes de certains témoins. On avait aussi vu une tristesse et un certain désarroi face à ce qui s'est passé. On pouvait voir aussi au centre de la cour des Invalides, le cercueil, là où était posé le corps du lieutenant-colonel Bertrand Montréal. Une des particularités de notre récit, c'est que, par rapport aux autres évangélistes qui annoncent la résurrection, c'est qu'il nous décrit les larmes, la tristesse et le désarroi de Marie Magdalène. Jean se focalise sur cette personne en particulier. Et on comprend sa peine, on comprend sa tristesse, ses larmes. Elle a assisté à l'horreur de la crucifixion, elle a vu le corps sans vie du Seigneur Jésus être déposé dans un tombeau. Et là, ce qui alourdit sa peine, c'est que le corps n'est plus là. La dernière trace de la présence de Jésus, son corps n'est plus là. Et vous l'avez entendu peut-être dans la lecture, à trois reprises, verset 2, verset 13, verset 15, elle se demande qui l'a emporté et où il se trouve. Où est-ce que le corps de Jésus se trouve? Elle est effondrée, elle pleure devant la disparition de Jésus, de son corps. Et pour elle, l'explication la plus naturelle, la plus simple, c'est que quelqu'un a dû emporter ce corps. On parle généralement de la tombe comme de la dernière demeure d'une personne. On dit de quelqu'un qui est décédé, qu'il est allé rejoindre sa dernière demeure. Mais quand il s'agit de Jésus, où est-il? Quelle est cette demeure? Je vous invite à considérer ce texte avec trois questions. Voir et croire, c'est la première. Où demeure Jésus et qu'est-ce que ça change? Voir et croire, d'abord. On a l'habitude de poser la foi et la vue. Les gens, les contemporains ont l'habitude de penser que la foi, c'est un domaine. Il y a le domaine du visible. Il y a comme un saut dans le vide d'un côté et puis le réel, le concret de l'autre. Pourtant, ce qui frappe dans ce texte, ce sont toutes les références à ce qu'ils ont vu et regardé tout de même. 1000 références dans cette section seulement. Et au verset 8, il est dit de Jean qu'il vit et il crut, les deux ensemble. Alors pourquoi cette insistance sur ce qu'ils ont vu? Pourquoi mettre côte à côte la vue et la foi? Parce que pour beaucoup de nos contemporains, la résurrection, la foi en la résurrection, c'est une projection de l'esprit, une vue de l'esprit. Ils voudraient que Jésus soit vivant, alors qu'il ne l'est pas. Mais on est placé ici devant un texte qui met en évidence deux choses. D'abord, leur témoignage est basé sur ce qu'ils ont vu. Et deuxièmement, on voit qu'ils ont beaucoup de peine à croire à la résurrection. C'est ces deux facettes qu'on trouve dans ce texte du Seigneur. En entendant cela, il y en a peut-être qui se disent, n'est-ce pas un auteur rusé qui nous présente les textes? Quelqu'un de rusé qui, en fait, veut nous parler des doutes, de la difficulté à croire. Mais c'est juste une ruse. Une ruse pour nous faire croire l'incroyable. Mais je pose la question, est-ce que c'était vraiment rusé? Est-ce que c'était vraiment rusé de la part des gens de choisir comme premier témoin Marie Magdalene? Voici comment, en référence à notre passage, Cels, un philosophe romain, va se moquer de la rédemption. Mais qui a vu tout cela? Une femme en transport, comme vous l'avouez vous-même, comme vous l'avouez vous-même, un signe de faiblesse, une femme. Un témoignage comme celui de Marie de Magdala n'aurait pas été reçu. Une femme comme elle n'aurait pas eu un témoignage recevable devant le tribunal. Et c'est pourtant elle qui est mentionnée au cœur de ce récit. Et si ce qui nous était dit est simplement le fait authentique de ce qui s'est passé? Et de manière très authentique, nous, les gens, nous disent deux choses. D'abord, ce qu'ils ont vu, mais ce qu'ils ont eu beaucoup de peine à croire. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont eu beaucoup de peine à croire. On commence avec Marie de Magdala qui se rend au tombeau le bon matin, alors qu'il était encore sombre. Et ce qu'elle voit en premier, c'est un tombeau. Pierre a été enlevé. Et est-ce qu'elle conclut par là que Jésus est ressuscité? Pas du tout. Vous l'avez entendu, elle dira et redira que quelqu'un a dû enlever le corps de Jésus, l'emporter. Est-ce qu'elle pense à des pilleurs de tombe? Est-ce qu'elle pense à un pur acte de méchanceté vis-à-vis de Jésus? C'est ce qu'il a à dire. En tout cas, pour elle, c'est clair, quelqu'un a emporté le corps de Jésus. Vous entendez déjà là la difficulté à croire pour elle. Elle court prévenir Pierre et Jean, c'est probablement lui qui se présente comme le disciple que Jésus aimait. Et à leur tour, ils se rendent au tombeau, et cette fois-ci, Jean nous dit qu'il est arrivé le premier, il voit les bandelettes pour entourer le corps de Jésus par terre, mais il n'entre pas. Pierre arrive ensuite, et avec la spontanéité qu'on lui connaît, il entre dans le tombeau, il voit non seulement les bandelettes, mais aussi le linge qui était posé sur le visage de Jésus, enroulé, placé à terre. Et notez comment chacun voit un peu plus. Marie voit le tombeau ouvert, Jean, lui, voit les bandelettes, Pierre voit le linge, enroulé. Et la conclusion arrive lorsque Jean décide à son tour de rentrer dans le tombeau. Et avec l'accumulation des éléments, il résume en disant « Il vit et il crut. » Il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il a compris sur la base de ce qu'il a vu? Voici le commentaire de Xavier Dufour sur ce verset. Les linges funèbres sont non seulement restés dans le tombeau, mais ils y sont déposés avec ordre. Et cela rend vaine l'hypothèse d'un rapt, d'un transfert du cadavre. Pour transporter le corps de Jésus, personne n'aurait pris le temps d'enlever les bandelettes, de poser le linge à part délicatement. J'en ne peux pas croire que le corps de Jésus a été enlevé. Est-ce que Jean croit à la résurrection parce qu'il a fait en sorte, une sorte de recoupement des textes de l'Écriture, comme ce texte d'Isaïe, qui parle de voir la lumière? Est-ce que tout à coup il arrive à faire concorder tous les textes et arriver à la conclusion, oui, je sais, Jésus est ressuscité? Il a noté au verset 9 de reconnaître qu'il n'avait pas encore compris, d'après l'Écriture, que Jésus devait ressusciter. S'il croit à la résurrection, ce n'est pas parce qu'il avait cette aspiration en lui, ce n'est même pas parce qu'il avait compris les Écritures, ça viendra par la suite. Non, il croit en la résurrection sur la base de ce qu'il voit. Et la foi en la résurrection, elle est basée sur le témoignage du témoin oculaire, comme tout autre événement dans l'histoire. On entend ici le témoignage de personnes qui ont beaucoup de peine à croire. Ici, Jean ne fait que tirer les conclusions de ce qu'il a vu. Il ne peut plus croire ce que Marie l'avait annoncé. Quelqu'un lui a emporté le corps, compte tenu de ce qu'il a vu. Pierre et Jean repartent et le projecteur revient sur Marie de Magdala qui est là près du tombeau. Et s'il y a bien une personne qui aimerait que Jésus soit ressuscité, c'est Marie de Magdala. S'il y a bien une personne qui aimerait qu'il soit là devant elle, mort ou vivant, c'est bien Marie de Magdala. Vous l'entendez pleurer? Elle n'arrête pas de pleurer. Personne n'arrive à la faire arrêter de pleurer. Deux anges sont assis là où se trouvait le corps de Jésus. Est-ce qu'elle croit à la résurrection? Non. Ils lui demandent pourquoi elle pleure et elle répond, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. Jésus lui-même se présente à elle et lui pose la même question, femme, pourquoi crois-tu? On lui dit qu'elle ne reconnaît pas. Elle le prend pour le jardinier et lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le chercher, le prendre. Est-ce que la foi en la résurrection de Jésus est une projection de l'esprit? S'il y a une projection ici, c'est se présupposer qu'elle ne lâche pas, qu'elle redit et redit encore. Et si vous ne l'avez pas encore entendu, je vais le redire encore. Elle pense que quelqu'un a emporté le corps de Jésus. Elle ne sait pas où il se trouve. C'est ça qu'elle n'arrive pas de répéter. Pour Marie, la présence des deux anges et la question qui lui est posée ne suffisent pas. La présence de Jésus et sa question ne suffisent pas. Finalement, ce qui va ouvrir ses yeux, en quelque sorte, c'est Jésus qui l'appelle par son prénom, Marie. Fais le lien. Cette personne qui va en face d'elle, celui qui est son maître, son Seigneur. À un moment ou à un autre, on a vu que chacun d'entre nous, on a fait l'expérience d'entendre quelqu'un qui nous appelait, soit par téléphone alors qu'on ne voyait pas son nom affiché, ou alors à distance. Le fait que cette personne nous appelle par notre prénom, avec le timbre de sa voix, sa manière de le prononcer, et c'est l'occasion de nous souvenir de la personne et de savoir qui nous a appelés. Et bien c'est le cas ici pour Marie qui reconnaît que celui qui l'appelle Jésus. N'est-ce pas lui qui s'est présenté au chapitre 10 de Jean comme celui qui est comme un bon berger, qui appelle ses brebis, les brebis qui reconnaissent sa voix? C'est là qu'elle le reconnaît en fait. Et ce soir, il y a peut-être des personnes qui sont très sceptiques par rapport à la résurrection de Jésus. Ça paraît totalement improbable, impensable, impossible. Eh bien, on doit voir ici que le premier témoin, première personne qui est là devant un tombeau vide était elle-même très sceptique par rapport à cette affirmation. Elle a ses présupposés sur l'impossibilité de la résurrection. Elle a dû changer de perspective à l'écoute de sa voix, devant l'évidence qu'il est bien vivant, qu'il est bien là devant nous. Et si on croit ce soir, si on croit à la résurrection, si on croit à la résurrection, ce n'est pas parce que ça répondrait à une aspiration en nous. Ce n'est même pas parce que ça nous ferait du bien, même si c'est le cas. Si on croit à la résurrection, c'est parce que nous croyons à l'authenticité des témoins oculaires, à leur témoignage. On se pose la deuxième question, où demeure Jésus? Le cosmonaute Yuri Gagarin est le premier à avoir fait un vol dans l'espace en 1961, cosmonaute russe, et on lui attribue cette citation. Alors certains pensent que c'était simplement la propagande de Khrushchev qui lui aurait suggéré. J'étais dans le ciel et j'ai bien regardé partout, je n'ai pas vu Dieu. Et dans la perspective biblique, ce n'est pas surprenant qu'on ne voit pas Dieu présenté comme étant esprit. On ne le voit pas. Mais qu'en est-il de Jésus qui a bien un corps? Où est-il? De tous les auteurs de l'Évangile, Jean est celui qui a écrit le plus tardivement, et les exégètes sont d'accord pour dire qu'il a pris le temps de réfléchir à la fois au contenu, mais aussi à la forme de son écrit, de son Évangile. Il y a de la profondeur théologique dans son ouvrage. Et si Matthieu et Luc remontent à la naissance de Jésus, lui remonte aux origines du cosmos. Dans son introduction, il parle du Fils préexistant comme de la parole qui était avec Dieu et qui s'est fait chair et qui a demeuré parmi nous. À la fin de son introduction, chapitre 1, verset 18, il va dire que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Et après ce prologue, on entend une sorte de petit refrain. Venez et voyez, viens et vois. Le disciple de Jean-Baptiste qui commence à suivre Jésus, et Jésus qui se retourne en lui demandant, que cherchez-vous? Et il lui demande, maître, où demeure-t-il? Jésus répond, venez et voyez. Vous voyez l'étrange similitude entre ce début de l'Évangile et notre passage? Comme si, dans notre récit aussi, on était invité à venir voir avec Marie Magdala, comme l'ont fait Pierre et Jean, pour voir pour eux-mêmes, justement. Et vous avez entendu la question de ses disciples, où demeures-tu? Ben, c'est la question que Marie se pose, où est-il? Où est son corps? Et pendant toute la première partie de ce texte, on a vu, ou plutôt on a entendu Marie demander où se trouve le corps de Jésus, où se trouve-t-il? Mais au moment où elle le reconnaît, alors qu'elle semble avoir saisi, s'être jetée à ses pieds, Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je connais que ce n'est pas très facile pour Marie. Surtout, elle a pleuré parce que son corps n'était plus là. Et au moment où elle finit par le reconnaître, elle veut s'attacher en quelque sorte, s'accrocher à lui, et lui dit, ne me retiens pas. Comment comprendre ne me retiens pas? L'interprétation de cette expression n'est pas facile. Certains comprennent ici que Jésus lui demande de ne pas la toucher, on peut traduire de cette façon, de ne pas le toucher parce qu'il va précisément vers le Père. Mais la difficulté avec cette interprétation, c'est que peu de temps après, Jésus va inviter Thomas à toucher à la fois ses mains et son côté. Alors qu'est-ce que Marie de Magdala doit comprendre ici? Je suggère deux éléments, ce qui suit. D'une part, elle doit réaliser qu'elle ne pourra pas le retenir dans cette condition présente. Où demeure Jésus? Le début de l'Évangile nous dit qu'il demeure auprès du Père et qu'il est venu demeurer parmi nous, mais qu'il retourne en effet vers le Père. Dans une réalité, un lieu qu'on appelle effectivement le ciel. Mais d'autre part, elle doit réaliser qu'il y a une priorité qui consiste maintenant à parler du fait qu'elle a vu le Christ ressuscité. La femme est la même que dans l'évangile de Matthieu, il y a Jésus qui prend l'initiative de se manifester, il est reconnu et il mandate ceux qui sont témoins de sa résurrection. Mais en entendant cela, il y en a qui se disent, c'est pas dur à entendre comme parole, ne me retient pas. Est-ce qu'elle doit se sentir comme rejetée par Jésus, en quelque sorte? Est-ce qu'elle doit ressentir un abandon, une abandonne en quelque sorte, ou une distance qui se creuse entre elle et lui? Est-ce que c'est ça qu'elle doit comprendre par ces paroles? Quelque chose a changé, mais qu'est-ce qui a changé? C'est la troisième question qu'on va se poser. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que ça change? On trouve dans les paroles de Jésus à Marie des éléments de réponse, et on va en parler, mais commençons par voir le contexte qui précède notre texte. Jean, dans son évangile, a pris le temps de retranscrire un long discours que Jésus a fait le soir avant d'être arrêté. Et dans ce discours, il a évoqué son départ à ses disciples, ce qui a provoqué leur tristesse, mais il a voulu les rassurer en leur disant qu'un consolateur allait leur être donné. Un consolateur qui serait avec eux, en eux. Rien de moins que son esprit. Jésus est allé jusqu'à dire qu'il est avantageux qu'il parte pour que ce consolateur ne soit donné, qu'il soit en eux, avec eux. Il a assuré qu'il ne les laisserait pas seuls, qu'il ne serait pas orphelin. Il les a assuré qu'il serait un avec le Père et lui. Et ces paroles sont en arrière-plan, ce que Jésus dit ici. En arrière-plan toujours, il y a la mort de Jésus à la croix. Je mentionnais au début de cette intervention le colonel Beltrán. Comment comprendre son geste? Comment comprendre le fait qu'il a été prêt à se sacrifier pour cet otage? Voici comment sa femme, Marielle Beltrán, beau prénom, c'est le capitaine. Pour lui, être gendarme, ça veut dire protéger. Mais on ne peut pas comprendre son sacrifice si on le sépare de sa foi personnelle. C'est le geste d'un gendarme et le geste d'un chrétien. Les obsèques de mon mari auront lieu en pleine semaine sainte, ce qui n'est pas un modèle. Un geste n'est pas dissociable de sa foi personnelle. Son épouse fait le lien entre le sacrifice de Jésus et le sacrifice que son mari a consenti. Comment est-ce que Jésus a expliqué son geste à ses disciples? En Jean 15, il a affirmé qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie en sacrifice pour ses amis. Et à ce moment-là, il leur dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Comment est-ce qu'il les appelle maintenant? Après avoir vécu ce sacrifice, il les appelle frères. Est-ce que c'est un fossé qui se creuse entre Jésus et ceux pour qui il est mort? Ou au contraire, c'est un écart qui se resserre, un lien qui devient plus fort? Il ne les appelle plus serviteurs avant son sacrifice. Il les appelle ses amis, c'est pour eux qu'il va mourir. Il ne les appelle plus amis, sinon frères. En Hébreux 2, verset 11, Jésus il a affirmé que Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Et si on pense aux disciples, si on pense à ce qui s'est passé au moment où il a été arrêté, Jésus pourrait avoir honte. N'est-ce pas Pierre qui a dit qu'il serait prêt à donner sa vie pour lui, qu'il serait prêt à mourir pour lui? Mais au moment de l'arrestation, c'est Jésus qui se préoccupe de ses disciples, de s'assurer qu'ils seront épargnés. Et à trois reprises, lui, l'innocent, dit « C'est moi, c'est moi, c'est moi. » Parce qu'il comparait devant le grand prêtre, dans la cour extérieure, Pierre est là. Et quand on le reconnaît, à trois reprises, Pierre, le pécheur, il dit là, « C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. » Quelqu'un comme Pierre aurait toutes les raisons de penser qu'il est loin de Jésus, que l'écart s'est creusé. Et pourtant, il doit savoir que c'est précisément pour lui que Jésus est mort. Et il appelle son frère ici. Pour différentes raisons, chacun d'entre nous ce soir, on pourrait penser que cet écart est creusé, nous aussi. On pourrait penser qu'en ayant à l'esprit du péché présent, de ce jour, ou récent, le souvenir de fautes passées, on pourrait se sentir loin de Dieu, éloigné. Soit parce qu'on n'a pas eu cette loyauté vis-à-vis de Dieu, soit parce que de manière régulière, systématique, il est en périphérie pour nous. Mais Jésus affirme qu'il s'est sacrifié pour nous, en nous traitant non plus comme des serviteurs, pas simplement comme des amis, mais désormais comme des frères et sœurs, mari, voire un père ici, une sœur. Cette affirmation, elle devrait déjà nous toucher. Mais Jésus n'en reste pas là. Il affirme à Marie, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et là encore, loin de creuser l'écart en disant, c'est mon Père, pas le vôtre. C'est une manière pour Jésus de dire qu'il nous fait entrer dans un cercle d'intimité qu'on ne connaissait pas avant. Alors que j'avais 16-17 ans, je me souviens avoir participé à un camp de ski et j'ai grandi en Suisse. Et à ce camp, il y avait plusieurs jeunes qui ont grandi dans cette église. Trois d'entre eux, alors. Très peu de personnes ici devraient les connaître, mais Arnaud Lénard, Charles-Olivier Lebel, Michaela. Et je me souviens, alors qu'ils étaient plus âgés, que j'ai été profondément touché au moment où ils m'ont en quelque sorte accueilli dans leur cercle d'amitié. Normalement, je me disais, pourquoi est-ce qu'ils s'intéresseraient à un petit jeune comme moi? Et je me souviens avoir été touché par le fait d'avoir été en quelque sorte accueilli dans leur cercle d'amitié. Michael a été des chers, devenu son beau-frère. Mais il y a cette joie-là qu'on peut ressentir. Ici, c'est dans un cercle d'intimité beaucoup plus beau, beaucoup plus fort. Ici, on a le cercle d'intimité que Jean nous a décrit en longueur dans son évangile, l'intimité entre le Fils et le Père. Il nous a parlé tout au long de son livre, Jean, de la plus belle, de la plus profonde, de la plus extraordinaire relation qui soit. Une relation éternelle entre le Père et le Fils. Une relation parfaite, exempte de tout orgueil, prétention, égoïsme qui nous caractérise. Et pourtant, c'est dans ce cercle d'intimité-là que Jésus veut nous faire rentrer. Par sa mort et sa résurrection, il nous fait rentrer dans cette relation avec le Père. Est-ce qu'on devrait se sentir abandonné, rejeté, perdu? En aucun cas. Si Jésus retourne vers le Père, c'est parce que Jésus s'est fait notre frère. Et il a inauguré une relation avec le Père, qui est notre Père. Et s'il demeure auprès du Père, c'est pour nous assurer que nous le verrons face à face. Et pour l'instant, nous avons son esprit, gage de sa présence en nous. Et tout ça, ça devrait susciter une sécurité inébranlable, une joie profonde,